PE nous a dit qu'il a fait limite une chronique, quoi.
Non, mais c'est une blague, j'ai rien préparé, tu vois. Lui, il a vraiment un truc, putain.
Après, c'est PE, tu sais qu'il se fait chier, tu vois.
Après,
donc,
je suis très forte en impro.
Oui, ah ouais. On a tous vu.
On a vu. Ça.
Regarde celle-là, Emily Krohn.
Putain.
T'as vu, j'ai même mis ton nom. Hein.
Oh non.
Il y a des pages et des pages.
Et non, il y a juste ça. Elle est où l'application Note où t'as écrit tes punchlines pour aujourd'hui, s'il te plaît?
Elles sont dans la tête.
Dans la tête.
C'est la Jay-Z de l'humour.
Non, non, non. Je prends aucune note, j'arrive au studio, j'entends le beat, j'enregistre.
Exactement. Mettez-moi un beat. Lancez-moi, lancez-moi.
Bon, les amis, on va quand même commencer avant que ça parte en freestyle. Et donc, c'est reparti pour la saison 2 de À guichet fermé, le podcast des humoristes sans public. J'ai 4 micros, 3 humoristes en face de moi et 1 heure pour déconner. C'est parti pour l'épisode numéro 27. Une petite musique pour lancer l'ambiance. Ça, j'avoue, c'est la première fois qu'on l'écoute en même temps qu'on enregistre. D'habitude, on fait ça au montage. J'avoue que j'aime bien.
Première fois pour beaucoup de choses d'être en face de gens quand on parle dans les micros. Donc, c'est aussi un essai, ça.
Ah oui, ça, c'est génial. Ça, par contre, c'est génial de vous voir, les amis. C'est la première pour cette saison. Il y a des changements, en fait. On revient avec des nouveaux épisodes thématiques. Donc, on a invité 2 autres humoristes pour papoter d'un sujet en lien avec l'univers du stand-up belge. Et comme on l'avait déjà annoncé, on le fait en physique ici au Cabaret Mademoiselle, bien sûr avec des distances, hein. Vous pouvez prouver qu'il y a,
oui, y a un truc moins, de plexiglas, au moins 1m50, il y a du plexiglas
tellement loin.
Exactement. Heureusement qu'on a les micros,
on a du gel et tout, donc tout ça très safe. Et à nouveau au Cabaret Mademoiselle, qu'on souhaite remercier pour la salle, pour qu'on puisse faire ça ici. Et donc, pour m'accompagner pour cette chouette discussion, j'ai, comme toujours à mes côtés, un chouette co-présentateur. C'est la clé de voûte de ce podcast, le rocher sur lequel repose la structure du What the Fun, le pilier de barre de la buvette de l'humour belge, c'est Rudy.
Merci Raph, c'est à moi que revient le privilège de présenter les invités du jour. Alors, habitué du What the Fun depuis nos débuts communs, son sourire de BN l'a emmené partout en Belgique, où vous avez pu la voir sur scène comme redoutable MC ou pour nous raconter comment faire un Batman en soirée. Mais elle est aussi autrice et comédienne dans la formidable série Les Anonymes, où elle adorait porter la moustache. Elle a horreur de téléphoner, mais en est capable quand elle s'y prépare. Elle ne monte jamais sur scène sans au moins un whisky coca et pense que les requins sont incompris, c'est Emily Krohn.
C'est la meilleure présentation qu'on ait jamais faite. Merci beaucoup.
Lui, il est là depuis toujours. Il a assisté à l'histoire du stand-up belge et est passé par toutes les scènes qui existent ou qui ont existé. Il tournait avec son spectacle optimiste avant d'être reconverti par le confinement en une espèce de youtubeur. Aujourd'hui, il crée le buzz avec ses vidéos en duo avec Nabila, Kim Glo et d'autres influenceurs qui vendent des faux livres pour votre déco. Fin critique politique qui n'en fait jamais trop. Investigateur de la tournée des barbecues pour continuer à faire des scènes cet été, il envisage la tournée des cimetières cet hiver. C'est notre humoriste trash mais convivial. Vivien, le PE. Et celui qui gère ce podcast d'une main de velours dans un gant de fer, celui qui m'a battu une fois aux échecs et depuis on n'y a plus jamais rejoué parce que il ne m'avait pas dit qu'il était sacré champion junior à Eupen en 2003.
À Eupen, ça vaut rien. Ça vaut rien.
C'est le très malicieux, mais non moins sympathique, Raphaël.
Oui. Merci. Je tiens à préciser, Rudy, on a une revanche d'échecs quand tu veux, hein. Si t'as besoin un peu de temps pour passer au-dessus de cet échec.
Le titre était tellement impressionnant jusqu'à Eupen.
Bah, ça reste quand même impressionnant. T'as vraiment été champion ?
J'étais champion dès moins de 10 ans dans la communauté germanophone. Attention, donc Eupen, 17 000 habitants, communauté germanophone, 80 000 habitants.
Oh, pardon.
Okay.
Pardon.
Donc, et tu jouais déjà aux échecs avant 10 ans ?
J'allais dire, c'était pas des dames. Tu t'es pas trompé?
Non. Non, c'était des échecs. Le jeu complexe.
Respecte-le un peu. Mais voilà. T'avais vraiment rien à faire, par contre.
Bah oui, voilà. J'étais à Eupen. Fallait que je m'occupe. Ok. Fallait que je dis le tour d'une manière ou d'une autre.
Et du coup, t'étais champion junior en allemand, alors? Enfin,
Oui, parce que les échecs en allemand, c'est complètement différent. Donc, c'est,
je savais qu'il allait pas laisser ça passer.
Mais non, mais.
Merci. Oui, oui, c'est un jeu qu'on peut vraiment pas faire.
Les pions, c'est des petits morceaux de saucisse, comme ça.
Voilà.
mais non, c'est pour rebondir sur le fait que ton enfance s'est fait en langue germanophone.
Oui, en effet. Ma mère vient du Ducle. Merci pour ce podcast où on présente la vie de Raphaël Schroeder.
Mais non, mais c'est génial.
C'est l'objectif, c'est un épisode thématique. Le thème, c'est moi. Voilà.
Les échecs en allemand. Alors.
Eupen.
Et comme vous le savez, avant de commencer la discussion sur le thème du jour, vous allez vous prêter un petit jeu d'introduction. Et pour aujourd'hui, on vous a chargé d'une mission de la plus haute importance. On vous a demandé d'inventer le titre du prochain spectacle de l'autre.
Oh yes.
Alors les gars, ça raconte quoi?
Ouais, trop bien. Moi, je veux bien commencer.
Vas-y.
Oui, vas-y.
Alors, moi, j'ai trouvé le prochain titre du spectacle d'Emily Kroon. Et alors, ce ne sera pas un spectacle, ce ne sera pas deux spectacles, ce sera une trilogie.
On est parti sur 10 minutes de recette.
Parce qu'effectivement, Emily Kroon, révélation, elle s'est dit, putain, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive. Et donc, ça va être une trilogie. Le premier spectacle va s'appeler Whisky Coca. Parce qu'elle est dans une période de recherche. Qui suis-je? D'où je viens? Où je vais?
Ça sonne vachement bien.
Est-ce que c'est grave de boire un verre de temps en temps toute seule? Quelle est la frontière entre le verre envie et le verre besoin? Elle est dans une recherche, c'est vraiment à l'intérieur d'elle-même. Et puis, deuxième spectacle, il s'appellera Jésus, la révélation. Et oui, en fait, depuis tout ce temps, Emily Kroon, c'est Jésus. Du coup, qu'est-ce que tu viens depuis tout ce temps? Son absence sur Terre pendant 2000 ans et sa rencontre avec les témoins de Jéhovah qui n'acceptent pas que ce soit elle, Jésus. Et en apothéose, son troisième spectacle s'appellera C'est encore nous, parce que c'est pas parce que je suis Jésus que j'ai arrêté le whisky coca. Vrai, effectivement, à la base, je transformais l'eau en vin, mais là, j'ai décidé de le transformer en whisky coca. Et donc, ça s'appellera The Trilogy of Comedy. À la base, elle voulait l'appeler le Trilogy de la Comédie, mais ça sonnait moins bien.
Est-ce que c'est validé, Émilie?
C'est complètement validé, mais à la fois, comment je vais passer après ça?
Alors, si on peut s'arrêter, Whisky Coca, ça sonne super bien. C'est un super nom de titre de spectacle.
Je suis en pleine réflexion sur des titres pour le spectacle qui va arriver.
C'est cool, parce que ça fait 5 ans que tu es en pleine réflexion sur le spectacle.
Et il va.
Mais c'est pour ça que la trilogie, je trouvais ça crédible, parce qu'en effet, tu travailles tellement longtemps dessus qu'à mon avis, tu as 3 heures de matos, quoi.
Ben franchement, je suis pas loin. Je pense de 3 heures de matos.
Et du bon matos, t'en as?
Non, ça par contre. Non, mais pas. C'est pour ça qu'il est toujours pas sorti.
Non, mais par contre, vraie question, 3 heures de matos, mais dessus, il y en a combien qui a déjà été testé?
1h45, 2 heures. Mais j'ai beaucoup écrit depuis le premier confinement.
Ok.
J'ai pas encore pu tester.
Et du coup, cette trilogie, c'est une bonne trilogie.
Voilà. Donc oui, écoute, merci beaucoup. Je vais vraiment y penser.
Elle essaie de combler parce qu'elle a pas préparé
Jésus,
le truc.
Mais
tu vois.
Si vous avez dit, vous avez le droit d'improviser. Vu qu'on me connaît, mes qualités.
Petite parenthèse. Justement, j'ai dit, vous avez le droit d'improviser. C'était pour éviter de mettre la pression à Emily Kroon pour qu'elle n'improvise pas, parce que je sais bien que tu ne sais pas improviser. Et j'ai dit à Raphaël, dis-le comme ça, parce que d'office PE, il va se sentir sur le moment, il va rien préparer, il va lancer une bonne punchline. Émilie aura préparé un truc solide. À quel point j'étais dans le faux.
Les rôles se sont inversés. Oui.
J'essaye de nouvelles choses, nouvelle année, nouvelle Émilie.
Ah. Improvisation. On a hâte de voir.
Ah merde, je crois que c'était le titre de mon spectacle. J'essaye de nouvelles choses, nouvelle année, nouvelle Émilie. Ok, c'est moi.
Non, mais j'ai pensé à un titre. J'ai pas autant brodé, mais j'ai pensé à un titre. Le titre, ce serait Plus que jamais. Ah, et pourquoi? Parce que les gens qui auront vu le premier auront compris que je fais référence à Optimiste.
Oui.
Et c'est plus que jamais, parce que je trouve que PE a été remarquable pendant depuis le début de ce confinement, et que j'ai jamais vu une once de pessimisme dans tout ce que t'as fait. C'est-à-dire que même quand c'était le bout, t'as créé un marché de Noël chez toi, dans ton jardin, t'as fait de nouvelles vidéos, quand t'as arrêté la radio, tu t'es dit, bon, qu'à cela ne tienne, je fais mes chroniques de mon côté, tu vois. Et donc, je me suis dit, ce gars n'a jamais une seule fois baissé les bras pendant tout le truc et a fait que se réinventer depuis le début.
C'est beau.
C'est pas marrant, mais c'est beau.
Je peux pas tout faire, ok.
Du coup, on pourrait l'appeler se réinvente, alors.
Ouais, mais plus que jamais, je trouve que ça donne un truc un peu plus
général. Ça veut dire que les gens sont obligés d'avoir vu le premier spectacle pour comprendre le deuxième. Merci. Et si le premier spectacle, il est pas sorti, qu'il est plus diffusé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est sur Netflix, tu vois? Je veux dire, on ne sait pas.
Non, je suis pas sur Netflix.
Si tu veux, je peux improviser là-dessus aussi.
Vas-y.
Oui, les gens doivent l'avoir vu.
Voilà,
le temps d'impro est terminé.
Émilie Krohn. Mais voilà, voilà. Après cette magnifique petite introduction qui se valent, on va pas dire qui a gagné, c'est plus ou moins équivalent. Mais comme annoncé, aujourd'hui, on va parler d'un thème hautement d'actualité. Si un nouveau humoriste voulait percer il y a 20 ans, il devait obligatoirement passer par la télévision. Aujourd'hui, n'importe quel humoriste peut faire une vidéo marrante dans son salon, atteindre plusieurs millions de vues et remplir des salles de théâtre. Alors, on va parler des vidéos virales d'humour sur le net. Et pour parler de tout ça, on a invité des experts en la matière, n'est-ce pas, Rudy ?
Tout à fait, tout à fait. Deux profils experts, vous rigolez parce qu'on lit nos fiches, mais c'est comme ça qu'on présente bien.
Et ouais.
Tout à fait, deux profils experts, mais assez différents pour une discussion encore plus intéressante aujourd'hui. Émilie Krohn, humoriste de nuit, a travaillé sur la websérie Les Anonymes, coproduction What the Fun et RTBF. Véritable production qui a nécessité des mois de travail et beaucoup de son temps, de son énergie et de son perfectionnisme, c'est on le vrai. Sait. Mais Émilie est aussi consultante en media planning le jour. En d'autres termes, elle comprend les algorithmes des réseaux sociaux qui font que tu n'as que 3 likes sur ta vidéo de ton chat qui est pourtant si drôle. Et de l'autre côté... PE devenu vidéaste par dépit sur Facebook et Instagram, il attaque les réseaux avec une attitude plus quick and dirty, donc sale et rapide, pour traduire pour PE qui parle pas anglais. Smartphone sur trépied, thème d'actualité, montage en cut rapide pour une diffusion régulière et soutenue sur les réseaux, pas coiffé car il a pas le droit, des fois blond parce qu'il l'a voulu, souvent en train de boire pour aider à la construction du personnage, mais toujours punchy et drôle, une espèce de revue de l'actualité ou des vidéos buzz du moment pour passer une bonne pandémie.
Donc c'est ça que ça fait quand on prépare. Et ben franchement, c'est pas mal.
Il faut quand même que quelqu'un encadre ce podcast, Émilie.
C'était incroyable.
Ça n'a pas été toi. Mais donc voilà, les amis, les vidéos virales, l'humour, est-ce que la vie, le succès, l'improvisation. Est-ce que vous pensez que en 2021, il faut faire des vidéos virales pour percer dans l'humour ?
Alors ça dépend. Ça dépend le côté percé, parce que par exemple j'avais fait une vidéo et qui avait fonctionné et quelqu'un avait mis comme critique c'est qui celui-là, il essaye de se faire un nom en se foutant de la gueule des gens, et je m'étais dit j'essaye rien quoi. Avant le confinement j'avais déjà estimé que j'avais réussi dans le sens où j'arrivais à vivre de ce que j'aime faire quoi.
Ouais.
Et donc je me disais oui, la vidéo c'est juste en plus. Après, évidemment, on préfère quand ça fonctionne, mais donc je pense pas que ce soit obligatoire de faire une vidéo pour pouvoir vivre de ce métier, puisque en temps normal, il y a un énorme parcours de plein de cafés-théâtres, et donc ce qui est bien, c'est d'avoir un spectacle et d'être repéré par des professionnels qui peuvent te lancer dans le circuit, et ça te permet d'en vivre et de rester complètement anonyme toute ta vie aussi.
C'est ça que j'allais dire. En fait, je pense que ça dépend où tu mets la barre à qu'est-ce que tu estimes être percé, qu'est-ce que tu estimes être un succès, tu vois. Je veux dire, moi j'ai 691 abonnés sur Instagram et j'estime que voilà quoi, je peux m'arrêter là, tu vois, vraiment je
ton objectif de vie est atteint,
voilà,
fait.
Exactement, ouais, non mais enfin je pense vraiment comme PE pour le coup, c'est vraiment que je pense pas que ce soit indispensable pour percer, parce que je pense que, et puis encore une fois ça dépend de ce que t'appelles percer. Si toi c'est la scène et c'est tout ce dont t'as envie, je vois pas pourquoi tu devrais te forcer entre guillemets à faire des vidéos qui deviennent virales pour être connus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont connus là maintenant sur scène et qui font pas forcément de vidéos, tu vois.
Mais c'est quand même un formidable raccourci.
Évidemment,
très parlant, Guillaume, on n'avait jamais entendu parler de lui sur scène, il a pas fait les petits circuits, il a juste fait des vidéos dans son salon, enfin dans sa chambre, et il a eu des millions de vues, et puis il a commencé avec un spectacle produit par François Pirette dans des grandes salles, une tournée sold out, et qui, de mes échos, fonctionnait bien. Mmh. Et donc... ça contraste avec parfois des gens qui font le chemin traditionnel des scènes et de voilà les festivals, se faire connaître comme ça. Et puis ça prend parfois 6-7 ans. Et puis tu vois un jeune qui débarque à 19 ans et qui fait la tournée de la Belgique. Donc comme tu dis, je crois que c'est pas nécessaire, mais ça peut être frustrant, je crois, pour une partie de la vieille garde ou pour les gens qui justement essaient moins de faire des vidéos sur le net, de voir en fait les gens qui débarquent et qui soudainement
Mais comme tu dis, je pense que ça dépend de ce que tu veux en fait, tu vois, par exemple Guillaume vous détend, et je pense que Jimmy Labeu avait fait ça aussi. En fait, je pense qu'à un moment eux ils ont déjà un public, donc d'une certaine façon il y a une capitalisation là-dessus, tu vois, qui fait qu'on se dit oui, on sait qu'ils vont remplir, s'il y a une envie de leur côté tant mieux, en fait tout le monde est gagnant, autant la production que eux. Mais je veux dire, il y a pas vraiment de frustration. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, du côté des stand-uppers, qu'il y aurait forcément une frustration. Maintenant, il y a effectivement parfois une frustration quand tu commences de peut-être jamais arriver à avoir un public qui arrive à te suivre. Au fur et à mesure, ça, oui, mais...
Mais le Guillaume Vous Détend, il partait pas de zéro, en fait. Avant de faire les vidéos, il avait déjà fait des trucs de théâtre et tout ça avant, donc il avait déjà été intéressé par le milieu de la scène. Et
Mais on va dire, il a pas fait le parcours de stand-up que par exemple, si quelqu'un vient me voir aujourd'hui, il me demande, voilà, j'aimerais bien faire du stand-up, je dirais, tu commences par ces scènes-là, puis tu fais ça, puis tu augmentes, et puis, à un moment, tu vois, ça, c'est la technique de Rudy et moi, à un moment, quand tu te sens à l'aise, tu fais une vidéo, bien captée, bonne qualité, et tu mets ça sur Internet. Et ça contraste énormément avec des jeunes qui font ça un peu aussi, comme Rudy disait, quick and dirty, où ils font leurs vidéos eux-mêmes, parfois sur des trucs, ça peut être des vidéos très courtes, où t'as pas spécialement scripté un truc, ou bien c'est filmé avec ton GSM, et ils atteignent des millions de personnes, alors que toi, tu travailles parfois pendant 2 ans pour un 5 minutes que tu mets sur YouTube et qui est vu par personne, tu vois.
Mais il y a le, ouais, il y a ça, mais après, moi, je viens de le découvrir, en fait, cette année, parce que avant, je faisais...
Guillaume?
Non. Le... Okay.
Et oui, Alain Chabat, tu connais?
Je connaissais tout le monde, sauf Guillaume. Dommage. Non, je l'ai réalisé cette année en faisant les vidéos, parce que justement, je l'ai fait depuis chez moi avec mon smartphone. Et avant, j'étais sur énergie, j'écrivais mes chroniques et je mettais 4 jours, parce que j'écris lentement, mais j'écrivais, puis je testais auprès de potes en disant ah, c'est drôle, c'est pas drôle. Et puis après, la chronique, on la publiait et ça faisait un bon 300 likes.
Oui,
et,
oui.
Et honnêtement, mon premier buzz, c'est Nabila, et montre en main, c'est 20 minutes à me filmer avec mon téléphone, le monter sur mon téléphone, le publier, 5 millions de vues, j'étais là, bah merde.
Mais ça, c'est frustrant, non? Est-ce qu'il n'y a pas un côté de...
Moi, j'ai vécu la frustration dans ce sens-là aussi, parce que je me disais, mais enfin, quand je prends du temps pour faire des blagues, ça marche moyen. Donc après, il faut se poser les bonnes questions. mais après, oui. Donc c'était, je me suis dit, bon, je peux me renouveler comme ça. Et après, ça a permis maintenant aux gens de découvrir tout ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est cool.
En fait, ouais, c'est ça qui est génial, je pense. C'est que quand t'arrives à faire un truc viral, c'est qu'après, t'as de toute façon une base, vraiment une, entre guillemets, une fanbase, en tout cas un nombre d'abonnés qui vont vraiment te suivre. Là où, quand t'as pas cette base de personnes, en fait, t'as beau faire ce que tu veux, personne le verra. Parce qu'on en parlait, par exemple, avec mon boulot, je le vois bien, sur Facebook, quand tu partages des trucs, si tu les partages organiquement, on appelle ça, donc sans mettre de l'argent derrière, généralement, t'as même pas 1% des gens de ta page qui voient ce truc défilé. Là où, en fait, quand c'est quelque chose que tu fais régulièrement, par exemple, PE, il met à jour régulièrement sa page, etc. En fait, les gens vont le suivre régulièrement et ça va changer l'algorithme qui fait que lui, il va pas avoir besoin de mettre beaucoup d'argent derrière. Et au-delà de ça...
0 euro.
Voilà. Et au-delà de ça, comme il dit, en fait, le truc, c'est aussi, comme il dit, la frustration de se dire « j'ai fait un truc en 20 minutes et ça part dans tous les sens ». En fait, c'est hyper frustrant, entre guillemets, pour tout le monde, dans le sens où, en fait, c'est souvent juste une question de timing. Déjà, rien que l'heure, ça, en 2 minutes, déjà, il y a une différence quand tu postes. Si les gens vont le voir ou pas. Il y a une question d'heure, il y a une question de qui va la voir, qui va partager, qui va commenter, qui va... En fait, tout ça nourrit l'algorithme des réseaux sociaux et va faire en sorte qu'on va voir votre vidéo ou pas. Là, je pense que ta vidéo, elle a été partagée par genre Joey Star, ou j'ai flashé, ou...
Ah ouais, sur Instagram, ouais.
Voilà, mais par exemple, rien que ça... c'est...
Oui. Mais c'est pas partagé, en fait. C'est, il a pris la vidéo et il l'a publiée.
Oh, le bâtard! Ouais.
Donc, les vues qu'il a obtenues ne sont pas comptabilisées dans mon presque 10 millions. Oh,
les épaules. Mais c'est intéressant de revenir sur le point technique qui est derrière. C'est pour ça que je voulais vraiment parler avec toi là-dessus. C'est que...
Parce qu'au-delà de ça, toi, t'as pas d'argent. Mais si tu pouvais nous aider sur la technique.
Alors, explique-nous, Émilie, pourquoi PE a tellement bien fonctionné.
Non, mais moi, je trouve ça super intéressant. C'est intéressant parce que j'avais déjà eu le débat, la dernière vidéo qui fonctionne très bien. Honnêtement, elle m'a pris plus que 20 minutes, mais je la filme une première fois, je fais le montage, je l'envoie à un ami, il me dit non, c'est pas bon au milieu. Je le refais une deuxième fois, il me dit non, c'est pas bon au milieu. Je le refais une troisième fois, et là, il me dit ok, c'est bon. Ça m'a tellement saoulé de la recommencer 3 fois que j'en parle à ma copine et je dis bon, je la publie. Elle me dit t'attends pas qu'il soit genre 18h, c'est une bonne heure apparemment. Puis je dis non, je la publie, mais 14h30, je la publie, Et bah, contre toute attente, j'ai vu le buzz démarrer. Quoi.
Ok, donc tout ce qu'Emily vient de dire, c'est de la merde.
Non, pas du tout.
Non, mais c'est parce que cette vidéo-là, par contre, comme on en parlait tout à l'heure, c'est inattendu, mais elle a buzzé sur 3 médias sociaux différents et publié à des heures différentes. Et donc, je pense qu'elle doit être chouette.
Mais il y a plein de trucs. Il y a aussi le contenu. Par exemple, c'est débile. Je vais vous donner un exemple sur ma super expérience d'influenceuse.
Vas-y,
balance. Sur les réseaux.
Tu as un code promo ou pas à la fin?
Surprise. Pour mon prochain spectacle, la trilogie.
Whisky Coca, épisode 1.
Whisky Coca. Non, en fait, par exemple, ça va être débile, mais quand je poste, imaginons, je poste juste un truc pour dire je vais jouer, ok? J'ai à peine 10 likes et les gens sont là, ah, chouette, ils viennent jamais.
Souvent, c'est moi parce que c'est nous qui organisons la soirée.
Voilà, exactement. Ben, c'est vrai, like le What the Fun like souvent. Voilà, et franchement, votre soutien me touche.
Et mais par... nouveau nom de spectacle, votre soutien me touche.
Oui. Je noterai ça quand je réécouterai ce podcast. Et par contre, dès que je mets un truc, par exemple, une photo de moi, mais dans le sens où n'importe qui met une photo, eh ben, dès que vous mettez une photo de vous, les likes augmentent, peu importe la tête que vous faites à ce moment-là, parce que c'est un truc personnel, les gens vont liker. Je comprends pas, mais montage, c'est le seul truc qui fonctionne avec ma tête dessus, tu vois. Et là, tout le monde me regarde genre quel montage. Et je suis ravie que vous ayez été voir ma page régulièrement.
Je les ai likés deux fois.
Merci beaucoup, PE. Mais je veux dire, en fait, c'est bête, mais c'est vraiment ça, quoi. Si tu mets un truc qui n'est pas personnel, juste un spectacle et tout pour quelqu'un qui démarre, je regarde PE et je suis là, non, lui, tout prendre de toute façon. Mais dès que vous faites
ça a mis 15 ans avant de prendre.
Mais voilà, ouais, mais voilà. c'est ça que je trouve,
c'est quand même intéressant à voir, c'est que c'est pas que PE est un citoyen lambda qui soudainement s'est dit ah c'est une thématique, je vais filmer ça. T'as développé un esprit, un personnage, un angle d'attaque, des skills de montage. T'as pris énormément de temps pour faire ça, pour finalement avoir les compétences pour en 20 minutes pouvoir réagir à un truc que tu vois et faire du contenu qui devient viral, quoi. Donc il y a quand même tout un processus avant qui fait que maintenant tu es quelqu'un qui est capable de faire des vidéos virales.
Oui.
Si je peux juste ajouter un truc à ça, c'est ça que je disais aussi, c'est qu'il a eu le temps de développer une fanbase hyper présente et qui le suit vraiment, tu vois. Et ça change tout quand t'as autant de gens qui te suivent. Au fur et à mesure, je sais que tu vas me faire, tu vas m'ennuyer. Mais quand t'as autant de gens qui te suivent au fur et à mesure, en fait, au bout d'un moment, tu peux poster plein de trucs et être super naturel et faire ce que tu veux, ils vont te suivre de toute façon.
Mais ça a été par palier en fait. Ouais. Mais je l'ai constaté parce que genre ma première année en chronique, je vois le truc et chaque fois que je publiais quelque chose, genre 150 likes, c'était le top du top. Mmh. La deuxième année, c'était plutôt 200, 250 likes. La troisième année, c'était 300. Et ben pendant la troisième année, il y a eu le confinement. Et c'est là que j'ai réalisé que depuis chez moi, ça fonctionnait mieux, puisque un jour j'ai oublié qu'il y avait.
Ne dis pas ça trop fort, s'il te plaît.
Moi, j'ai vu un doigt d'honneur pour énergie.
Non, c'est pas ça. Il y a un jour, j'oublie que le vendredi est un jour férié, qui était le jour de ma chronique.
Ouais.
Mais j'avais écrit quoi, c'est exactement la même durée et tout ça. Et donc je me suis dit, je la filme depuis chez moi en disant juste au début, j'avais oublié, c'était machin. Et elle fait 800 likes. Et donc là, je comprenais pas en me disant, putain, mais quand je reste chez moi, ça fonctionne mieux. Bon, je suis nettement moins payé, vu que c'est vachement bénéfique.
Mais il y a un côté, je trouve que dans les vidéos que tu fais, il y a un côté authentique et un côté de, il a vraiment fait ça à sa propre sauce. Et donc, tes interventions, la façon dont tu te présentes, t'as toujours une bière ou un truc à bouffer en main, et la façon dont tu t'habilles, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait, on voit que c'est pas quelque chose de poli. C'est pas, il est passé à la radio, il s'est fait chic parce que c'est le moment de la semaine où il passe à la radio. Tu étais dans ton salon, tu t'es filmé, t'as fait le truc. Et c'est ça, en fait, qui séduit, je trouve, en partie, parce qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans ton univers. Et du coup, moi, c'est aussi une réflexion qu'on a eue avec Rudy, c'est que c'est dur d'essayer de voir comment intégrer l'humour, le stand-up, qui est quelque chose de très authentique dans les médias, dans la télévision, dans la radio. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on a quelque chose de très beau quand c'est brut, quand c'est sur une scène. Et quand on le met dans un contexte un peu beau et propre, ça perd de son authenticité. Donc, c'est un truc qu'on avait déjà discuté avec... on doit pas forcément revenir là-dessus, mais les captations qu'on faisait dans les scènes, dans les soirées, je trouve qu'il y avait un côté beaucoup plus électrique que des trucs sur un plateau avec un public à qui on demande d'applaudir et des trucs comme ça, quoi.
Mais moi j'aime bien le côté authentique, mais c'est revenu grâce au confinement parce que quand tout a commencé à freiner, donc je sais plus, on est en mars ou avril, je sais pas, moi je me disais en fait c'est chouette d'avoir un espèce de frein et de redécouvrir en fait le vrai tempo de la vie, parce que sinon quand on dit vivement le retour à la normale, moi il me fait quand même peur, parce qu'avant le confinement il y avait la vie allait super vite, la consommation était beaucoup, enfin ça allait beaucoup trop vite quoi, et donc là moi je me suis dit je vais tout ralentir à tout niveau, donc pour me remettre dans l'ambiance j'ai commencé à revoir les films de Louis de Funès parce que c'est ce que j'adore. Et j'ai aussi regardé des vieilles émissions de télé. Et en fait, c'est là que je me suis dit, putain, même en fait, à l'époque, ils buvaient à la télé, ils fumaient à la télé. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi je me priverais de faire en vidéo exactement ce que je suis, puisque j'aime bien picoler. Bon, je fume plus, donc je ne fume pas dans mes vidéos juste pour le... Allez, j'ai
le style, bad boy.
Mais il y avait vraiment un truc comme ça, parce que et c'est là où je me suis... Une espèce de prise de conscience par rapport à ce que nous propose la télé. C'est, je me dis, on vit quelque chose, et la télé essaye de nous montrer une version parfaite de la société.
Mmh. Ouais.
Sauf qu'aujourd'hui, on nous bassine tous les jours ce qui ne va pas dans la société. Et je vais me dire... Ben oui, mais ce qui ne va pas non plus, c'est ce qu'on nous montre à la télé. Hein. On essaye de nous montrer une société parfaite où il y a en fait plein de lacunes. Et je dis, redescendons un petit peu, remettons des bières à la télé, j'en sais rien, mais...
c'est le mouvement de paix, quoi.
Non, mais vraiment...
Nom du prochain spectacle, remettons des bières à la télé.
C'est un peu ce que j'ai vu dans pas mal de textes qui analysent un peu les réseaux sociaux et qui voient un peu aussi... Parce que le réseau social, en fait, il est générationnel. Hein. On voit maintenant qu'on est en train de quitter Facebook, Instagram est bien plus puissant chez les jeunes et tout ça. Il y a TikTok qui monte et tout ça. Il y a tout un jeu, mais en fait, il y a comme une espèce de tension vers le retour à la petite sphère, à l'authenticité, à soi-même, oui. et pas au grand... phare et aux grandes constructions, quoi.
Et c'est ça que j'expliquais, en fait, c'est ça qui, je pense que sur les réseaux sociaux, tu retrouves, entre guillemets, ce qui intéresse, c'est le naturel que tu retrouves sur scène, dans le sens où, c'est pour ça que je te dis, quand tu vas mettre un truc tout joli, une annonce pour tel truc, les gens vont complètement s'en foutre, alors que tu mets un truc sur toi, ou toi qui te balades avec ton chien, ou toi qui, j'en sais rien, et c'est ça qui intéresse les gens, parce que il y a rien à faire, les gens sont voyeur, tu vois, il y a un vrai voyeurisme, et c'est ça qui fonctionne, et c'est pas forcément quelque chose de négatif, je veux dire, justement, PE est naturel dans ses vidéos, comme il l'est sur scène, et c'est pour ça que ça fonctionne. J'ai un pote qui, mon meilleur ami d'ailleurs, coucou Sébastien, qui est,
qu'on embrasse.
Qui
est très bon graphiste.
Qui, tout à fait, il est graphiste et il est aussi spécialiste dans les réseaux sociaux. Et lui, il me dit tout le temps, quand je réfléchis à faire des vidéos, il fait, arrête de réfléchir. Il dit, fais juste des trucs, filme-toi, t'as envie de dire ça, dis-le, on s'en fout. Et moi, je suis tellement contrôle freak et perfectionniste qu'à chaque fois, je suis là, non, c'est pas le moment. Il faut qu'il y ait un bon éclairage, il faut ceci et cela. Et donc, à chaque fois, je repousse et à chaque fois, il me dit, c'est débile, tu devrais vraiment juste le faire et c'est ça qui va fonctionner. Et c'est bête, mais genre, ces montages pourris, tu vois, que j'espère que vous irez voir par après. voilà.
Donne au moins le nom de ta page.
Émilie fait des blagues. Et donc, je faisais les montages et je lui envoyais et j'étais là, c'est nul, non? Et il fait, mais on s'en fout que ce soit nul si toi, ça te fait rire. Et en fait, c'est vraiment le même déclic que j'ai eu sur scène où je pense que quand tu démarres sur scène, t'as l'impression que t'as envie de plaire à tout le monde, etc. Et en fait, au bout d'un moment où tu dis, non, en fait, moi, je fais ça juste pour moi. Ah, oui, et oui. Si ça fait rire les gens, le même principe que les anonymes, d'ailleurs, et si ça fait rire les gens, tant mieux. Eh ben, en fait, tu t'enlèves une pression de fou. C'est là que tu commences à vraiment prendre ton pied. Et je pense que c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Il faut être aussi naturel que ce qu'on fait sur scène, en fait.
Mais aussi la peur de créer quelque chose qui est mauvais et d'être jugé et que, voilà, d'autres gens vont se dire, ouf. Ça y est, truc s'est lancé dans des vidéos face caméra, enfin même truc que tous les autres, c'est super naze. Et donc ça, je dis pas que c'est quelque chose de bien, mais c'est quelque chose qui va forcément décourager certaines personnes parce qu'ils se disent je vais avoir l'air con.
Mais comme sur scène en fait. Ouais. Et en fait sur scène on le fait quand même.
Après c'est être bien encadré quoi, parce que même si tu veux te lancer dans la vidéo, il faudra bien en faire une première. Et donc c'est t'essayes et
au début. C'était quoi la toute première vidéo que t'as fait?
Je crois que je parle avec des moutons.
en purée, on va.
On est donc dans une ambiance authentique. Nous mettre...
Non, mais parce que je pense qu'il y a, en fait, je pense qu'au tout début, pour n'importe lequel d'entre nous, quand on commence, mais vraiment juste avant de faire ta première vidéo ou ta première scène, je crois que c'est le moment où on est le plus naturel. Et puis après, on essaye. Et on essaye de se formater à, mais celui-là, il a vachement bien fonctionné, ou cette vidéo-là, alors que la mienne, pas du tout. Et donc, on commence d'abord à essayer d'imiter les autres en se disant, peut-être que pour moi aussi, ça va marcher. Et puis, c'est à force de regarder comment les autres font, qu'à un moment donné, tu te dis, moi, c'est pas moi, en fait, ça, je le vois, mais c'est, je sais pas comment le résumer, c'est ben genre par exemple moi mon humoriste préféré c'est Raymond Devos. Incapable de faire ce qu'il fait. Pourtant, au tout début, un de mes premiers sketchs, c'était des jeux de mots. Et puis, je me suis dit, bah, je suis très bon client, je suis très mauvais vendeur. Et donc, après, bah, c'est voilà. Donc, c'est de se trouver.
C'est de la recherche.
Comment faire. Ouais. C'est ça. Donc, mais je pense que soit pour la scène ou la vidéo, faut vraiment pas avoir peur de se planter. Après, évidemment, pour les vidéos, maintenant, bah, ça peut vite partir, dans les
on méandres. A déjà vu des bad buzz avec des millions de vues. Et donc,
Oui, ça existe aussi. Mais après, je pense qu'il faut pas avoir peur aussi de s'encadrer. Genre moi, mes vidéos, je les envoie toujours. Ben, j'ai déjà eu pas mal de débriefs aussi avec Rudy. Et ce que j'aime bien avec Rudy, c'est que ben il n'a pas de filtre, quoi. Si c'est mauvais.
Ça, c'est clair.
Non mais on gagne un temps précieux.
C'est une question de filtre. C'est une question d'efficacité. Il me demande mon avis. Ça c'est mauvais. Ça c'est bien. Point,
ouais.
Tu vois.
Ouais, non mais ça c'est bien. Mais parfois il y a des gens qui vont essayer d'arrondir les angles et tout. Mais t'es là. Oui mais c'est bien ou c'est pas
j'ai
bien.
J'ai compris. C'est pour ça que tu me les envoies pas. PE. C'est bon.
Oui mais toi tu es un
Raphaël, il va me dire c'est bien.
Oh t'es très rigolo.
Raph le diplomate. Écoute c'est formidable. Bon s'il y a un bad buzz je ne t'ai rien. Mais...
Après, faut quand même pas oublier que c'est ma défense pour tout, mais l'humour c'est subjectif. Donc je veux dire, l'avis de Rudy est un avis qui, j'imagine aussi, est un avis qui se pose.
Mais j'en prends 5.
Voilà.
Non mais je prends.
T'es un parmi d'autres, Rudy.
Non non.
Déjà un parmi d'autres.
Déjà, je suis un parmi d'autres pour PE et pour Émilie, j'ai un avis de merde.
Non. Donc, c'est ce que... Mais je dis, ton avis va pas du tout être le même que le mien ou que celui de Raph. Donc je dis juste. Je me baserai pas sur un avis, que ce soit le tien ou n'importe lequel. Et mais il en prend 5, tu vois la preuve. Voilà, enchaîné.
Travaille bien, hein.
Non, mais c'est intéressant parce que au moins ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont peut-être pas être tous d'accord les 5, mais s'ils sont tous d'accord sur ça, c'est mauvais.
C'est ça.
Au moins t'es là. Il y en a 5 qui ont dit que ce passage-là c'était mauvais. Il y a une certitude. Tout est là. Ouais. Ok, parfait. Parce qu'il y a rien à faire. Parfois t'es content d'une blague et tu te dis oh, celle-là je la garde et tout le monde te dit non. Mais elle était bien pourtant.
Parfois je la garde quand même.
Ah, t'inquiète, on est au courant. Une autre question que j'avais pour vous, c'est est-ce que ça compte tant pour les vidéos de PE que les anonymes qu'on a publiés sur différentes plateformes, vous remarquez une différence entre YouTube, Facebook, TikTok ou même LinkedIn pour PE?
Ah, mais il faut préciser LinkedIn d'abord quoi.
Non mais alors de ouf, et c'est mais je sais plus, je crois que j'en ai fait un gag où je disais justement YouTube ça me permet de garder les pieds sur terre de ouf. Parce que ça ne fait jamais les mêmes scores.
À fond.
Moi, quand je publie toujours, je fais d'abord Facebook, puis Instagram, et puis YouTube. Et toutes les vidéos qui ont genre bien fonctionné, ben à chaque fois ma copine dit, écoute, arrête de prendre le melon, va voir YouTube et vois combien il y a de vues. Tu vois genre par exemple, ben la dernière vidéo là qui a bien buzzé sur YouTube, elle fait 30 000 vues. On est sur quelque chose de tout à fait plus raisonnable. Alors, bon, ben voilà, c'est pas grave, il y a 700 likes.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre... Moi, j'ai toujours conçu l'idée, c'est vraiment une interprétation personnelle, que une vue YouTube compte pour 10 vues Facebook. Parce que YouTube, tu dois cliquer sur le lien. Moi, je suis un gros consommateur de YouTube. Moi, c'est mon réseau social préféré. Je fais vraiment du suivi de pas mal de gens là-dessus. Et en fait, du coup, ben, j'attends la prochaine vidéo, je clique dessus. Et puis, on me propose d'autres vidéos, je clique dessus. Alors que Facebook, en fait, te fait proposer des vidéos dans ton scroll. Et du coup, en fait, quand je compte une vidéo de PE, c'est que quelqu'un a scrollé et est tombé sur la vidéo de PE, n'a pas forcément regardé. Et du coup, pour moi, quand tu dis je fais 30 000 vues sur YouTube, pour moi, tu dois te dire, ok, ben, ça vaut 300 000 vues sur Facebook, quoi.
C'est possible. C'est parce que si on regarde dans les statistiques, en fait, par exemple, ben là, la vidéo, peu importe laquelle, s'il est mis 300 000 vues, il précise que c'est 300 000 vues, mais qui ont duré 3 secondes.
Ah oui, d'accord.
Ouais, c'est ça. Sur Facebook, en fait, une vue est comptée après 3 secondes. Donc, généralement, tu dois regarder le view through rate dans tes stats. Et là, ils te mettent à partir, soit c'est à partir de 30 secondes, soit de 15 secondes.
Sensation. Notre technique, c'est chouette, c'est chouette.
Mais non, mais moi, j'ai pas, c'est quoi? Tu dois regarder le view
through rate. Ça veut dire, en fait, ça dépend des settings que toi-même tu mets, mais donc, enfin, des paramètres. Mais par exemple, donc view through rate, ça veut dire, à quel point, donc, ta vidéo a été vue entièrement. Donc,
les par exemple, réelles.
Voilà. Donc, c'est bien ça.
Il a littéralement traduit ce que tu as dit.
Non, parce que c'est pas exactement la même chose. En fonction des paramètres, ça peut démarrer à partir de 15 secondes. Par exemple, pour les anonymes, c'est à partir de 15 secondes. Mais il y a des vidéos où, si par exemple, t'as une vidéo qui fait que 30 secondes, le view through rate peut effectivement être une vue réelle. Mais donc, ça dépend, c'est écrit quand vous allez dans vos statistiques et que vous regardez sur view through rate, il y a écrit à partir de combien de secondes ils estiment que c'est que les gens ont vu entièrement.
J'irai voir tout à l'heure.
Tu peux dire encore une fois comment ça s'appelle?
View through rate.
Yeah.
Le VTR, quoi.
Mais on peut peut-être revenir à la question.
VTR, exactement.
Oui, merci Rudy, parce qu'on s'éloigne.
On peut peut-être revenir à la question de Raphaël, qui est donc les plateformes, leurs intérêts différents, blablabla, bla, bla, argumenté.
Alors, oui,
à vous.
Bon,
à
déjà,
vous. Clairement... J'ai eu la parole pendant 3 secondes, ça m'a fait peur. Vraiment, je savais pas quoi faire.
L'impro,
avec.
C'est pas ton truc, hein, j'ai remarqué.
Déjà, ce qu'il y a de bien avec les plateformes différentes, c'est que tu peux toucher des publics différents.
Exactement.
Genre Facebook, effectivement, c'est un peu plus âgé, et donc Instagram un peu moins. Et sur TikTok, par contre, je crois que je n'ai pas l'âge.
Mais par contre, TikTok, c'est affolant. Enfin, on a eu le coup avec les anonymes.
Oui,
c'est
intéressant.
On a rien compris. Okay.
Il y a eu quoi?
Donc, il y a une vidéo sur Facebook. Enfin, celle qui a fait le plus de vues, c'est les pervers narcissiques anonymes. Et en fait, quelqu'un a repris un extrait des pervers narcissiques, l'extrait... parce que je suis sûre que t'as vu tous les épisodes où je suis...
Ah oui, non, j'ai tout regardé.
Ok, avec ma veste, et je parle à Florent. Et donc, je dis, ah, ma veste, elle est belle aujourd'hui, alors que hier, tu te... Bah voilà, bref.
Je me rappelle pas des répliques, mais bon, j'ai tout...
Surtout, donc... on s'est mal expliqué comme ça. Moi,
j'ai rien compris.
Anyway, et donc, quelqu'un a pris cet extrait, l'a mis sur TikTok, et en quoi, en une journée, on était à... des centaines de milliers
de vues. Des centaines
de
milliers de vues sur TikTok.
Et
avec le mécanisme de TikTok, hein, qui est fort utilisé, à partir du moment où t'as une vidéo qui est sur TikTok, les gens s'amusent à la mimiquer. C'est-à-dire qu'ils gardent le son.
C'était affolant. J'ai vu des gens parler avec ma voix. C'était trop bizarre.
Le truc qui était vicieux derrière, c'est que cet extrait-là, qui était donc sur une interprétation des pervers narcissiques anonymes, donc le personnage est insulté parce que on lui dit que sa veste est jolie. Ah, hier elle était pas jolie. Ah oui, c'est ça. Bah hop, je vais me suicider. Et c'est un peu raccourci. Hein, c'est un peu raccourci.
Allez voir les anonymes.
Vous allez comprendre. Coupé comme c'était coupé, l'extrait a été utilisé et c'est ça qui a fait buzzer. Comme un argument anti-féministe.
Ouais, donc en
où
fait,
c'était genre les femmes, on peut plus les complimenter, regarde. Ouais. Et tout le monde mimiquait cet extrait-là avec ce truc.
Voilà. Et les gens étaient là, ah, enfin, on dit que les femmes sont des connasses. Enfin, c'était vraiment un peu ça. Et genre, moi,
l'objectif
quand j'ai vu...
de la
donc, le message n'est pas du tout le
non,
même.
Parce non, parce qu'en fait, il a été retiré de son contexte sans le remettre. Et donc, moi, j'étais là, et donc, il y en avait qui étaient super contents du nombre de vues. Et moi, j'étais là, mais non. Moi, je préfère qu'il y ait zéro vue dessus. Plutôt qu'on le sorte de son contexte et qu'on nous fasse passer pour... Enfin, tu vois, non. Allez, là, j'ai vite compris. Je veux pas de succès si c'est genre vient un bad
et
buzz, quoi. No
le
way.
Gars, il vous avait cité ou pas ou...
Non, il y avait aucune
citation.
Non,
en fait, c'est ça
lien,
le petit coup... problème.
Oui, mais c'est par contre la déception des réseaux sociaux, c'est que...
C'est un message pour Joestar, ça, c'est ça?
Non.
Si tu nous entends.
Non, parce que moi, honnêtement, j'ai... Bon, ben voilà, il est plus âgé que moi. Moi, j'ai grandi avec lui. Moi, on m'a tagué sous lui. On m'a tagué sous sa page. Donc, cette phrase est très bizarre.
Révélation.
Donc, j'ai reçu des messages comme quoi il avait partagé ma vidéo. Donc, j'étais hyper content. J'ai été mettre un commentaire en disant « Wouhou, Joestar a partagé ma vidéo. » Non, mais 2021 est réussi pour moi. Et voilà, après, je l'ai vu. D'autres gens ont partagé. Mais j'avais pas l'affect. Tu vois, j'ai pas dansé sur des inconnus, quoi. Je veux dire, Joestar, j'ai quand même dansé NTM, j'étais là, waouh! Et donc, il n'y avait pas l'affect, j'étais là, t'es connard, quoi. T'aurais quand même pu le dire. Et c'est là où je me suis dit, on vit dans une société maintenant où, y a tellement de gens qui veulent être dans la lumière. Pour quelle raison, je ne sais pas. Comme au départ, hein, j'étais là, oui, pourquoi tu veux faire de l'humour? T'es là, oui, on va trouver un beau raisonnement. Et puis, en fait, j'aime juste bien voir les gens rire, quoi. Donc, paraît suffisant, mais là tu vois il y a des gens ils veulent être dans la lumière, mais ils veulent être dans la lumière avec ton travail, et donc c'est très perturbant, quoi.
En fait c'est perturbant et puis c'est frustrant. Enfin dans le cas par exemple du truc des anonymes, c'est que tu fais un travail où tu te casses quand même. Je sais, pour les gens qui nous écoutent et qui ont vu les anonymes, ça n'a peut-être pas l'air clair directement, mais il y a des messages derrière. Et donc, genre, dans ce
pourquoi
truc-là...
Pourquoi tu prends une voix d'hôtesse de l'air pour l'expliquer?
C'était pour que les messieurs. Gens se disent « Ah, il y a un message important ici. » Il est dit avec une voix « Un message important. »
J'aimerais bien savoir le message qui est derrière les philosophes bourrés anonymes, tu vois.
Ok, donc dans celui-là, il n'y en a pas.
Il y a des très bons livres qui ont été écrits grâce à l'absinthe.
Pas tous les épisodes. Mais donc, en gros, le truc, c'est que tu te dis « Ok, je fais quand même j'essaye de faire passer des messages, et il y a quelqu'un qui ruine tout ça en le prenant et en faisant passer mon message pour toutes les femmes sont des connasses, merci de l'avoir dit. » Non, ça m'a rendu malade vraiment. Mais
ça, après, ça aurait pu aussi arriver sur une autre plateforme. Est-ce que c'est propre à TikTok? Je ne sais pas.
Non, enfin... je pense que ça aurait... Mais TikTok, après, j'ai l'impression que ça va vachement plus vite que le reste, quoi. Franchement, après, c'est peut-être parce que c'est une des plateformes que je connais le moins. Mais franchement, là, attends, c'était abusé. En une journée, La personne retire le truc et en un jour, ça fait des centaines de milliers. Je crois que on est arrivé à moins d'un million. Il y avait des centaines de milliers de commentaires. Enfin, moi, j'ai
pas. Et le gars qui a fait ça ou la madame, il avait combien d'abonnés?
Bah, vraiment pas beaucoup.
Ouais, c'était vraiment une vidéo qui buzzait parmi le reste.
Genre
et en fait, c'était clairement un compte qui faisait de la récup et de la rediffusion, qui était très orienté sur les médias belges. Et tu trouvais un morceau de sketch de Cody, un morceau de sketch de machin et tout.
Ah ouais, okay.
Je suis désolé, je crois que t'étais pas dessus.
Mais moi je suis flatté. Parce que le truc, c'est que je suis un gros consommateur, je scroll, mais après, c'est très bizarre. Là, c'était pas les anonymes, mais c'était une fille donc qui avait pris la voix de Tania Dutel et qui faisait son sketch en playback et c'est là où je me suis dit c'est dingue parce qu'elle s'attribue tous les mérites parce qu'elle avait les likes, elle avait les commentaires, mais les gens qui la félicitaient, elle disait merci. Tu as fait un playback.
Il n'y avait pas de valeur ajoutée, il n'y avait pas de truc qu'elle apportait en plus pour donner un twist.
De dire non, ça vient de Tania Dutel.
Il était même pas indiqué que c'était
sur quel réseau.
TikTok.
C'était sur TikTok. Mais c'est ça, en fait. TikTok est construit comme ça, et en dessous, normalement, tu vois scroller le nom de cette vidéo-là, et si cette vidéo-là a été postée par l'artiste lui-même.
Ah, mais non, c'était malheureusement pas l'artiste, quoi. Et donc là, je trouvais ça un peu dommage, parce que t'es là, même enfin, c'est juste un playback.
C'est du plagiat sur un autre level, quoi.
Moi, je suis content qu'on est très vite devenu un épisode de boomer qui crache sur le nouveau réseau social.
Mais non,
c'est clairement ça.
Mais par contre, plus,
c'est
marrant, je crache pas du tout dessus.
Mais je trouve ça rigolo parce qu'il y a pas longtemps, j'ai regardé l'épisode de Un bon moment, donc le podcast de Kian Kojandi, où ils parlent de TikTok et puis ils expliquent leur TikToker préféré et ceux qu'ils trouvent cool. Et j'étais là, mais il est plus vieux que moi et j'ai aucune idée de ce qui se passe sur TikTok, quoi. Donc je me sentais plus vieux que lui parce que j'ai des potes qui parfois m'envoient des liens et puis je clique et je regarde et puis souvent c'est rigolo, mais je n'ai pas le réflexe d'aller dessus. Je sais pas où trouver ce qui est rigolo, je suis complètement largué, moi.
Il y a des tout bons trucs, hein.
Il y a du très bon créatif quand même qui est sur TikTok.
Mais c'est ça qui est amusant, en fait, et c'est à mon avis là où il y a plein de gens qui ne sont pas encore, à mon avis, éduqués à la création.
Mais ça, je compris.
Parce que. non, c'est pas pour toi, c'est pour justement les gens qui sont sur TikTok. Parce que j'ai vu plusieurs fois des personnes, genre, ils font une vidéo qui devient un peu virale sur TikTok, et puis après, ça fonctionne plus. Et ils commencent à râler, mais c'est toujours des vidéos, ils ont repris le concept d'un autre, ils sont toujours là, je comprends pas, lui, il le fait, il a 1 million de vues, 200 000 likes, 200 000 commentaires, moi, je fais la même chose, il y a rien. Puis je dis, c'est normal, t'arrives en deux. Je veux dire, la personne qui arrive avec le concept et tout, il va surprendre tout le monde, mais si toi, t'es la 10e personne à l'imiter, à un moment donné, tu veux quand même pas qu'on t'envoie des fleurs, je veux dire, waouh, tu es le 10e playback de la même scène de ce matin, mais écoute, quel talent. Moi, j'y arrive pas.
Ouais, mais par contre, vraiment, je pense qu'on crache pas sur TikTok. non, mais c'est vrai.
Pas
je pense
du
qu'on...
tout.
Non, mais je pense qu'on crache sur aucun des trucs, mais comme dit PE, enfin, comme on en parle tous un peu aussi, je pense qu'il y a juste, il y a un problème qui est quand même assez récurrent, c'est un peu ce problème de plagiat qui est quand même un problème de non-respect de...
Tu vois comme c'est devenu sérieux.
Mais
ce
non, 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 mais, non, mais parce que
on
je veux dire...
On va parler d'un truc, ok,
non,
c'est sérieux.
Non, mais c'est surtout, par exemple, regardez, je sais pas si vous suivez Coucou Charles sur Facebook.
Oui.
Okay. Oui,
il est génial. Drôle. Et je sais pas combien de personnes repartagent, mais non, ils le partagent même pas, en fait, ils copient-collent l'image et ils le remettent et ils mettent jamais... la source. Et en fait, il y a ça autant sur Facebook que sur Instagram, que sur TikTok, donc c'est
ça
pas...
Ça arrive chez tout le monde et c'est un truc débile, en fait. C'est vrai que quand tu vois une belle image, tu sais, le nombre de fois que tu envoies à quelqu'un juste un encadré avec 4 petits logos parce que c'est une petite BD ou un truc du genre, et que tu l'envoies sans les crédits parce que tu l'envoies juste à ton pote, tu manques, en fait, ce truc-là. C'est peut-être un travail d'éducation.
Un réflexe à avoir.
Ouais, je pense que c'est un réflexe. Et ça, j'aime bien chez Kayron. Je sais pas si vous le suivez sur Instagram, mais lui, et je trouve ça cool parce que ça donne un peu aux gens l'idée de n'oubliez pas de citer vos sources, parce que en story il repartage souvent des trucs mais dont il a pas la source initiale, et donc il met reçu en l'état, j'ai pas la source, désolé. Ah ouais. Tu vois, et c'est bête mais c'est simple, et je trouve que c'est super important, en fait. Voilà.
Donc
c'était le cri du cœur
d'Emily. PE veut qu'on boive à nouveau de l'alcool à la télévision et Emily veut qu'on cite les sources.
Mais par contre, je soutiens complètement PE dans cette histoire d'alcool à la télévision.
Non, mais c'est vrai qu'avec le truc de prendre comme ça, comme tu l'expliquais, ça s'est rentré genre dans le langage courant sur Facebook. J'avais déjà vu, tu publies genre un statut drôle et il y a des gens qui vont dire « j'adore, je pique ».
À fond, genre...
Donc même la personne te le signale.
Ouais.
C'est genre, on te vole quelque chose, mais on te le signale avec. N'oublie pas de citer la source. Hein. Et tu vois que la personne ne cite pas la source, elle va le poster comme si c'était ton statut. Ça m'est déjà arrivé une fois, donc quelqu'un l'a pris, elle l'a publié, quelqu'un lui a mis t'es trop drôle, et elle a dit aussi merci. Non, pas merci, moi merci.
Voilà. Est-ce que c'est pas le syndrome du mec qui dit sa blague pas assez fort et son voisin de table l'a dit plus fort et reçoit les rires.
Ouf, tellement,
ça reste
tellement.
Un vol de propriété intellectuelle.
C'est ça, et puis après finalement.
Déposez votre texte.
Parce que je sais qu'il y avait plein d'humoristes à un moment donné, parce que c'était sur Twitter, il y en a plein à la base qui testaient des vannes. Parce que bon, 140 caractères, ça te permet de tester vraiment de la bonne punch. Et après, à un moment donné, il y en a plein qui se sont dit, on va arrêter de publier là-dessus, parce qu'à chaque fois, je vois ma punch qui part d'un plus gros compte ou quoi que ce soit, et que ça fonctionne mieux chez un autre, c'est chiant, quoi.
Mais ça, c'est très intéressant, parce que c'est une autre question que je voulais poser, qui est le fait que maintenant, on fait des chroniques, on écrit des trucs, on met sur Internet, et dont on n'est plus vraiment propriétaire, des gens peuvent le partager, des choses comme ça. On peut faire des demandes pour que Facebook ou Instagram enlève quelque chose, mais ça prend souvent beaucoup de temps. Et donc, les réseaux sociaux, c'est devenu une sorte d'outil de promotion immense, mais pour du travail qu'on fait gratuitement, qui, peut-être à l'époque, si ça passait par des médias traditionnels, la télévision, la radio, ça aurait été rémunéré. Il y aurait eu des droits d'auteur. On aurait eu un droit de citation, un contrôle sur ce qui se passe avec notre travail. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux revers de la médaille. Le bon, qui est que t'as un outil dingue qui fait que tu partages un truc et t'as des millions de gens qui connaissent ton nom et qui vont peut-être acheter ton ticket pour ton spectacle. Mais en même temps, tu ne contrôles plus ce que tu fais. Tu le mets et puis les gens en font ce qu'ils veulent.
Mais ça va venir.
Non, mais moi, là, c'est pour ça que je fais en vidéo, maintenant. Parce que dans la vidéo, il y a quand même ma gueule.
Donc... Mais il y a des gens qui peuvent, par exemple, prendre complètement hors contexte ce que tu dis. Ils peuvent prendre une séquence où tu imites peut-être quelqu'un, et puis, oh, voilà, regardez ce que PE a dit ce jour-là, ou bien...
Ouais, mais bon, ça, je vais pas leur en vouloir, je fais pareil.
Ah oui.
C'est son fond de commerce.
Je fais ça avec les influenceurs ou avec les politiciens. Ouais. Ah, c'est donc, pas bon, faux, c'est pas faux. Si on me le renvoie, je dirais, bon, bah, c'est de bonne guerre, quoi.
En fait, c'est le jeu, c'est ça.
Après, par contre, je pense que je réagirais, si c'est comme la vidéo des anonymes, si on transforme le message et qu'on me fait faire dire des trucs atroces, je dirais, oui, bon...
Et le côté travail non rémunéré.
Mais ouais, en fait, ça, je pense que ça va venir. Honnêtement, je pense que ça va venir. Je pense que une fois qu'Internet va être considéré comme un vrai média, et bon, on voit qu'il y a déjà au niveau des droits d'auteur, etc., un travail qui est fait par rapport à ça. Je pense que tout va venir. Je pense que même maintenant, ils sont occupés à voter un truc au Parlement. À la Fédération Wallonie-Bruxelles, je pense, justement, pour tout ce qui est éducation dans les médias, comment utiliser le digital, etc. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger à ce niveau-là, qu'il y a une vraie législation qui va se faire à ce niveau-là. Et il y a même déjà des trucs qui sont mis en place maintenant, je pense, par rapport au digital, dont on n'est pas au courant et dont on pourrait se servir.
Oui, mais je veux dire, par exemple, les vidéos virales de PE, t'as pas touché un euro là-dessus.
Ah non.
Ah non. Ah non.
Mais il faut faire plus de vues. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Alors que tu amènes des millions de gens qui passent du temps sur une plateforme sur laquelle il y a des publicités et sur laquelle ils se financent. Donc, il y a quand même une sorte d'injustice de ce côté-là.
Bon, en même temps, bah bon, bah, évidemment, là, les salles sont fermées, mais sinon, je me dis, il y a quelque chose de très honnête. Moi, la vidéo, tu la regardes, en général, c'est quoi? C'est 1 minute 40. Il n'y a pas de pub. Tu la consommes très rapidement et voilà, donc je me dis, le win-win, c'est moi, la plateforme me permet de gagner en visibilité, et en temps normal, normalement, il y a des théâtres, quoi, donc c'est
là. Mais on va dire, c'est différent, je trouve que c'est différent pour du contenu que tu fais spécifiquement pour l'Internet, et du contenu qui sont des extraits de ton spectacle que tu fais payant après, et que tu mets sur Internet. Et donc, où là, en fait, tu essaies de faire un teaser, tu essaies d'attirer des gens, mais après, tu mets quelque chose sur Internet qui est un truc sur lequel tu as travaillé super longtemps, et qui fait partie de ton spectacle payant avec lequel tu veux payer ton loyer.
Ouais, mais moi, pour ce qui est des passages de scène, soit je mets, comme j'avais fait au What the Fun quand on a déconfiné, enfin le premier déconfinement, je me dis ça va exister une fois. Mm-hmm. Je le filme, je le poste et je dis ça appartient à mon univers et comme ça c'est les gens qui disent mais on aimerait bien voir plus de vidéos. Je dis là il y en a une. Et voilà, mais sinon les autres c'est quand tu participes à des genre des galas comme Vous Rire et là c'est toi t'acceptes un c'est publié, mais bon, j'ai été payé pour jouer dans un théâtre et ça a été super bien capté. Donc là, ça me dérange pas de la publier et puis après de me dire, je vais retirer de mon spectacle. Même si les gens viennent, oh, mais on voulait cette blague-là. Je fais, t'en fais pas. Comme tu la connaissais déjà, t'aurais été déçu. Donc c'est pas grave si tu la vois plus.
Mais ça aussi, je suis sûre que ça va changer. Je sais, hein,
Émilie, elle croit en la révolution, là.
Oui,
c'est...
non, mais
tout va changer, les gars.
J'en suis persuadée.
Tu t'es occupée de la campagne de Hollande? Le changement, c'est maintenant.
Non, le changement, c'est maintenant.
Non, mais avec le confinement, je pense aussi, allez, il y a plein de trucs qui bougent. Je veux dire, même au niveau humour, au niveau, ben, par exemple, avec les frères Talloche, enfin, c'est Vincent Talloche qui s'occupe de
oui,
ça, mais.
La fédération belge exactement. Des humoristes professionnels.
Parce que voilà exactement parce que je pense que là on se rend compte que wow, en fait on n'est pas du tout protégé.
Ouais.
Il y a rien qui est fait pour nous etc. Et donc il faut commencer à vraiment se protéger, à faire quelque chose de professionnel parce que le problème aussi je pense c'est qu'en Belgique les gens se rendent pas compte que faire des blagues, c'est sérieux. Et donc, du coup, il faut... Non, mais c'est vrai. Et que du coup, il y a plein de trucs qui doivent changer dans les esprits. Et je suis sûre que c'est peut-être un travail sur le long terme et que ça va peut-être mettre... que ça va peut-être être dans les 5 prochaines années, mais je suis sûre qu'à un moment, ce genre de vidéos, etc., ça va être monétisé. Pour l'instant, c'est déjà monétisé d'une certaine façon. PE, ça va pas tarder. Il va être sur une liste d'influenceurs. Tu vas voir.
Non, moi je veux vraiment.
Il va nous vendre des projecteurs que tu branches à ta télévision.
Non, mais franchement, il suffira qu'une marque que t'aimes bien, même toi, hein, j'en sais rien, je
putain, du n'importe quoi. Saucisson, putain,
Si je peux dire,
PE a déjà été influenceur, hein, parce que dans quelques publications qu'il fait avec dans son marché de Noël, avec la tasse du téléphone peut-être, mais aussi quelques produits d'amis ou de produits qu'il considère.
Ah oui, évidemment.
Il est déjà sur ce chemin-là.
Mais bientôt, on va, genre, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais t'as une bière que t'aimes bien, on te demandera de la mettre juste à l'arrière et on te dira là, t'as 5000 euros pour ça.
J'ai reçu des propositions, mais.
Voilà. T'as reçu quoi comme proposition?
Du thé.
Oh. Ils ont pas du tout compris le public.
Ils ont pas compris le perso.
Non, mais
quoi.
J'ai reçu l'email, à mon avis, qui est un copier-coller qu'ils envoient à tout le monde et ils disent, voilà, nous avons vu votre profil, vous nous intéressez énormément et puis je vois que c'est du thé. Vous avez vraiment pas regardé mon profil. Vous savez, moi, il y a du jambon, il y a du saucisson, il y a de la bière.
Par contre, Émilie Krohn, du thé. Oui, tu vois.
Là, je vois. On adresse. Tu peux leur dire que les vidéos sont bien pour bientôt.
Mais j'y ai pensé parce que ouais, il y a eu genre 2-3 proposition cette semaine et puis je m'étais dit parce qu'à chaque fois il me donne le titre influenceur et ça, ça fait vraiment 15 ans que je me bats pour être pas connu mais en tout cas reconnu dans ce que je fais et ça je vais mettre un point d'honneur, c'est je suis humoriste, je suis pas influenceur
mais...
et c'est pas parce que t'as plus de monde qui te suit que tu deviens influenceur et donc moi je dis je suis très vieilli
mais est-ce que c'est pas justement ça la définition, c'est par le fait qu'il y a des gens qui te suivent, si tu vas dire ce produit là est meilleur que cet autre produit là, tu influences.
Oui, il y a ça mais maintenant
donc,
c'est devenu
un stigma dans ce mot qui est horrible, c'est devenu
vraiment un job, quoi. Il y a des gens, c'est juste, c'est quoi ton métier? Je suis influenceur ou influenceuse, c'est juste ça leur activité. Et je dis, moi, quand on m'envoie un message maintenant en me disant on cherche des influenceurs, je dis, vous êtes trompé, moi je suis humoriste, quoi. Donc, et comme je suis un peu vieux jeu, je dis, moi, si un jour je dois faire de la pub, c'est vraiment que j'ai besoin d'arrondir mes fins de mois, et alors j'irai trouver une pub qu'on fait en télé, quoi. Je veux pas casser les couilles aux gens qui me suivent avec
les pubs en TV. Ça, c'est l'avenir.
Mais je suis vraiment sur un truc de, j'aime bien la lenteur, tu vois, moi, tu me montres une pub avant le film de 20h, parce que ça m'arrive encore de regarder des films à 20h.
Dis donc.
Et ça ne me dérange pas, genre, une ou deux pubs.
Est-ce que tu t'endors avant la fin?
ça dépend les films, mais oui, ça arrive. Mais un truc comme ça, mais je me vois pas du tout commencer à dire j'ai un code promo à vous proposer, blablabla, j'arriverai pas à être crédible du tout.
Si tu devais être sponsorisé, ça devrait être par quel type de produit? Donc on a le saucisson.
Si je devais être
sponsorisé. t'es forcé, là. Toi, Émilie, chacun doit dire 3 produits qu'ils accepteraient de sponsoriser à l'avenir, si vous êtes forcé.
Mais moi j'en ai mis 3 en avant justement dans mon marché de Noël. Mais ça c'était des produits de 1 pour soutenir des entrepreneurs belges pendant la période de crise, mais dedans il y avait du rhum parce que j'adore le rhum. Il y avait du vin parce que j'adore le vin.
Il y avait de la bière
parce que j'adore la bière.
Non, il y avait dans le pack de vin, il y avait de l'huile d'olive mais aussi non, et le dernier produit c'était les yeux rouges, le livre de Myriam Leroy.
Ouais.
Parce que de 1, je trouve que ce livre est incroyable, et de 2, il correspond à une période vraiment folle qu'on est en train de vivre, quoi. Parce que le harcèlement en ligne, c'est un truc de fou. Et justement, avec les buzz à répétition, messages passer vraiment bizarres. Mais et donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment un livre qui me parle. Et puis, c'est un livre que je pense qu'il faudrait étudier à l'école, vraiment. puisque on n'arrête pas de dire que on va de plus en plus tôt sur un téléphone, et je me dis justement, tu peux te retrouver donc confronté de plus en plus tôt à des gens vraiment bizarres et des gens malveillants. Donc je me dis, s'il y a bien un livre à lire à l'école, ce serait celui-là.
Et ça, je me suis posé la question de comment faire face à des commentaires négatifs. Et
est-ce que tu n'es pas censé poser la question?
Je sais, mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop léger pour le thème qu'on vient d'aborder. Donc je me suis dit, et toi, Emily, est-ce que tu aimes le thé? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'étais curieux de savoir comment PE faisait face à des commentaires négatifs. Parce que, par exemple, avec les anonymes, on a eu une sorte de système, de mécanisme de digestion de mauvais commentaires. On faisait un screenshot et on l'envoyait dans la discussion commune. Et puis, entre nous, on se marrait. On disait à quel point c'était ridicule et tout ça.
Je vais faire un book.
Et donc vraiment, il y avait un côté de légèreté. Et bon, après, moi, je suis pas un des auteurs des anonymes. Et donc, je devine que j'ai perçu ça différemment. Mais je trouvais que c'était un mécanisme qui était très bien et qui fonctionnait bien pour ne pas prendre trop sérieusement les critiques qu'on trouve, parfois très virulentes, qu'on trouve sur le net. Mais du coup, quand tu fais un truc tout seul, comment est-ce qu'en fait t'arrives à digérer quand t'as des commentaires vraiment haineux?
De la même manière que tu viens de le décrire, mais plutôt que de le mettre dans un groupe, moi, c'était en public. Parce que j'ai eu un commentaire de quelqu'un, il me disait « t'es pas drôle, t'as pas de carrière, change de métier ». Et donc je l'ai pris à la dérision et je me suis déguisé en bûcheron et j'ai dit ben voilà, je change de métier, ça fait des années que j'essaye sur la scène et il y a enfin un conseiller d'orientation qui a pris le temps de m'envoyer un message sous une vidéo et j'ai décidé, je deviens bûcheron. Après ça dépend le message aussi, ouais. parce que j'aimerais bien écrire justement un sketch mais pour la scène là-dessus, parce que là j'en parlais avec un ami et il me dit ouais mais parfois t'as du mal avec la critique. Et c'est vrai que
je lui ai dit c'est pas vrai.
Non mais je l'ai bloqué.
Non mais parce que le point là c'est que, ben déjà ça dépend de qui vient la critique et donc
oui, oui.
Mais ça c'est humain je pense. Mais ce que je disais à mon pote c'est je dis il faut quand même faire très attention à ne pas confondre critique et insulte.
Ouais.
Parce que quand t'as quelqu'un qui t'envoie juste t'es qu'une grosse merde, je dis ben quand même c'est difficile à accepter. Ouais. Je veux dire je ne vois pas le côté critique. Je dis t'es une merde. Bon ben écoute merci. Qu'est-ce que tu veux que j'améliore à part tout? Parce que c'est très vague comme truc. Donc quand c'est une insulte je me dis juste ben je sais rien faire. C'est juste quelqu'un voilà. Ouais. Et moi aussi ça m'arrive de ne pas aimer des choses. Après je ne prends pas le temps de le noter en insulte parce que c'est une perte de temps. Après, quand c'est une critique constructive, là, je me pose plus de questions en disant, OK, qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi ça n'a pas été? Et voilà. Mais bon, la chance, c'est qu'il n'y a jamais personne qui prend le temps d'écrire une critique constructive sur Facebook. Donc, je ne prends jamais le temps de me dire, tiens, qu'est-ce qui a été ou pas? Puisque finalement, quand ça n'a pas été, c'est directement des insultes. Et t'es là, bah, OK, alors, prenez du temps pour aller soutenir les gens que vous aimez bien. Mais ça n'arrive pas non plus.
Et, ouais.
Ben oui, pour revenir juste par rapport à ce que tu disais.
Alors c'est... le thé, un plaid.
non, ce serait Whisky Van, c'est n'importe quelle ONG.
c'est pas mal.
Et ou plusieurs ONG d'ailleurs, elles font ce qu'elles veulent.
Attends, il y en a sur deux qui sont vraiment juste liés à vous, et puis un troisième pour se faire passer pour quelqu'un de sympa, quoi.
Ouais, exactement. Mais après, il a tout à fait raison pour tout ce qu'il a dit. C'est vraiment un livre à lire. Mais donc pour revenir à ce que tu disais, franchement, c'est vrai que. Ça m'a démangé, je sais pas combien de fois de répondre, vraiment, parce que je me disais, allez, je vais me marrer, vraiment, je vais me marrer en lui répondant. Tu vois, il y avait un commentaire, par exemple, un gars, mais genre, je suis venue à l'adorer, quoi. Parce qu'en fait, en dessous de chaque vidéo, mais chaque vidéo, il mettait, c'est de la merde, genre, ok. Et puis après, il mettait... Pourquoi, genre, jusqu'à quand vont-ils continuer? Et parfois, j'avais envie de lui faire... Bon, il y a 20 épisodes au total. Il en reste 16. Courage, quoi. Voilà, franchement. Ou alors, juste, arrête de regarder les vidéos. Tu sais qu'il y en a une qui va sortir chaque semaine. Arrête de les regarder. Et après, franchement, il me faisait rire et je le voyais. Et puis, il y a une fois, il y a un gars qui a mis « Ah, on est d'accord !» Et j'étais là et j'avais tellement envie de leur dire. Mais franchement, les gars, il y a un agenda, vous le voyez bien. C'est une fois, c'est deux fois par semaine. Vous voyez quand ça sort. Arrêtez de venir sur ma page pour me regarder. Déjà, pourquoi vous êtes sur ma
Ils
page
Ils avaient vu tes magnifiques montages.
Ouais, ça doit être ça. Et à un moment, j'ai vraiment voulu leur demander en mode « Comment est-ce que vous voulez qu'on procède ?» Genre, est-ce que moi, je vous bloque de ma page? Comme ça, vous voyez plus et tout le monde est content. Est-ce que vous voulez... Tu vois, vraiment, j'avais envie d'avoir un dialogue avec eux. Et je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir. Parce qu'en fait, si ce genre de personnes prends le temps de regarder un truc qu'ils aiment pas pour mettre ça de la merde, je me dis, en fait, on va avoir des discussions interminables, et donc je me suis dit, ah, continue à perdre chaque fois 3 heures de ton temps, mets un petit commentaire, et ça m'est complètement égal.
Mais ça, c'est le plus fou, c'est les gens qui n'aiment pas, enfin, parce que là, c'est une série, mais donc, qui n'aiment pas, mais qui restent abonnés.
Oui.
Et donc, qui viennent toutes les, genre, là, il est abonné à la page de la première, mais, c'est comme Guillaume Voudétan vient de rejoindre la première et qui fait le brouillon, je crois que c'est tous les mardis matin. Ben, je me suis dit, tiens, le gars, il est né sur Facebook, les gens l'ont découvert là principalement, il a fait, comme tu l'as dit, un spectacle sur scène, et que maintenant il passe en radio la première. Je me suis dit, quel va être l'accueil réservé à Guillaume, parce que on ne s'attend quand même pas à la base à recevoir Guillaume sur la première. Alors, moi, je trouve que c'est dément, justement, ça ouvre les horizons, ça ouvre plein de choses. Et il y a un gars qui l'a pris en grippe. Donc, toutes les semaines, c'est le même commentaire. C'est très poli, mais c'est le même commentaire. C'est, eh ben, dis donc, la première est tombée bien bas. Et tu sais, moi, je vois, ça fait 5 fois que le mec met le même commentaire et je me dis, il a Alzheimer. Il ne sait pas.
Mais tu vois, ce que je trouve génial, c'est que je me dis, et encore une fois, hein, je me répète, mais l'humour, c'est subjectif. Si t'aimes pas, est-ce que t'es vraiment obligé de le dire? Je veux dire, moi, il y a des trucs que je vois, j'aime pas, et je me dis pas, je vais pas le laisser s'échapper comme ça. Tu vois, évidemment, je mets pas de commentaires. Si t'aimes pas, c'est pas grave. S'il y a rien de constructif,
mais ça donne,
pourquoi
ça donne,
est-ce que t'as besoin de le dire?
Tu penses pas que ça donne un certain sentiment de pouvoir aux gens? Que justement, t'as quelqu'un qui, dans sa vie, n'est pas dans une position importante, et soudainement il se retrouve sur un réseau social où il est le roi, il peut juger tout le monde, peut critiquer des choses,
mais
et
c'est
donc
tellement
ça
triste.
Oui, c'est triste, hein, je dis pas le contraire, mais en fait sur quoi je voulais aussi rebondir, c'est le fait que les réseaux sociaux, le côté viral peut bien sûr venir vraiment juste d'une vidéo bienveillante qui fonctionne, plein de gens aiment bien et le partagent, mais il y a aussi beaucoup de viralité qui vient des commentaires positif et négatif, des gens qui se disputent. Ah oui, et non, ça a même déjà été aussi loin que, je me rappelle, il y a un an, on faisait une captation avec un humoriste. On avait capté 15 minutes de son sketch. On lui demandait, tu veux quelles 3 minutes? Il nous donne les 3 minutes. Et je dis, ouf, là, il y a quand même une blague sur Julie Mélissa. T'es sûr que tu veux mettre ça sur Internet? Et il dit, parfait, ça fera plus de vues. Et donc, je me suis dit, et c'est même pas qu'il a tort. C'est vraiment ça qui est pire, c'est qu'il a raison. C'est qu'en fait, ce côté viral des commentaires, c'est vraiment ça, que l'algorithme est basé sur les commentaires et les gens qui se disputent en commentaires, c'est ça qui va créer des centaines et des millions de vues. Encourage même les créateurs de contenu à se dire, voilà, j'ai 15 minutes de sketch, j'ai des sketchs sur mon petit chat qui fait pipi sur le lit, qui est complètement innocent et ça rend personne fâché, mais les gens mettent peut-être un like mais ils réagissent pas plus que ça, alors qu'un truc sur un thème polémique, boum, ça va rebondir, les gens vont se disputer et ça va être horrible, mais pour l'artiste qui veut se faire connaître, c'est bénéfique.
Bah, il y a de ça, mais c'est ça qui est chouette aussi, arriver à gérer les commentaires de comment on dit, haters.
Ouais.
Les détesteurs.
Les détesteurs. Ouais. J'ai l'impression qu'on est dans une version canadienne ou québécoise. Les détesteurs.
On dit les haters.
Mais non, parce que ce qu'il y a de dément, c'est que finalement, les personnes qui sont censées te détester, c'est des gens, ils ne veulent pas qu'on parle de toi. Ils le disent, c'est de la merde, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Mais en même temps, c'est des gens qui prennent tellement de temps à commenter qu'ils te donnent une visibilité. Et donc, tu te dis, je comprends pas très bien la démarche, quoi. Tu voudrais qu'on ne parle pas de moi, mais tu viens commenter tout. Et donc, l'un dans l'autre, merci les haters, quoi. Ouais.
Je voulais juste terminer, avant qu'on clôture la thématique, sur un truc très court. Est-ce que vous pouvez dire quel est votre vidéaste humoristique préféré pour le moment?
Oh, il y a... Oh mince, j'ai oublié son nom. Il fait des parodies de films. C'est Matt se fait des films.
Ah oui.
Je trouve vraiment dément. Il est vraiment cool.
Ok, Matt se fait les films, on note.
Moi, j'avoue que si c'est vraiment là, maintenant, pour le moment, c'est Guillaume Voudétan. Parce qu'en fait, moi, je l'ai découvert pendant le confinement, parce qu'avant, je connaissais ses vidéos, mais je regardais pas forcément. Et là, en fait, à chaque fois qu'il fait une vidéo, il dit exactement ce qui se passe dans ma tête. Mais vraiment, et donc, ça m'éclate, parce que je me dis, mais on est d'accord. Ouais, à chaque fois que je le regarde, je suis hyper en mode, mais merci de l'avoir dit, tu vois. Et donc, lui, pour l'instant, m'éclate, quoi.
Je te vois tellement te lever. Mais oui,
c'est exactement ça. Ouais. Et par contre, si je peux juste dire un mini truc, c'est quand même que c'est très drôle de savoir que quelqu'un qui a commencé sur Internet et qui est maintenant complètement hyper connu avec Internet et ce fameux nouveau média, et maintenant est à la radio. Voilà. Un média traditionnel où on se dit, ah, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'est hyper drôle de voir qu'un gars
qui va tomber d'abord, la TV ou la radio? Parce que moi, j'ai l'impression.
Voilà, Nickelodeon, on repart sur un thème de 3 heures. C'est nickel. Donc il y a 5 secondes.
On ne demande pas à
la radio.
Si, j'allais te le demander.
La radio.
J'allais te le demander ce qu'elle
était. La radio.
Aucun.
La radio, comment? La radio, pour la simple et bonne raison qu'ils ont transformé la radio en télé.
Wow, ok. Okay,
vous avez donc un nouveau podcast, le prochain podcast.
Non, mais c'est vrai.
Vous avez 10 minutes.
On va choisir ton invité, on parlera de
voilà,
cette
voilà,
question.
Voilà, voilà, voilà. Je pense que tout est dit. Mais ce podcast n'est pas fini, n'est-ce pas, Rudy?
Oui, mais je veux aussi un vidéaste.
Ah oui, pardon, merde! Mais j'allais le faire, j'allais
oui,
le faire.
Oui, en plus, il l'a dit, c'est un gros consommateur de YouTube.
Vas-y, vas-y.
Non, non, c'est un vidéaste qu'on a découvert il y a pas longtemps, Raph et moi, qui s'appelle Incréatif, dont je parlais.
Oui,
juste
juste.
Du coup, je réinsiste. C'est un YouTuber belge, qui fait des vidéos en général sur des thématiques de marketing, de marque, de consommation, mais qui est extrêmement drôle et qui fait des ouais, j'adore son humour et du coup je vous conseille Incréatif.
On ira regarder.
Incréatif.
On ira regarder.
La vidéo sur le dropshipping.
Le dropshipping. Voilà.
Exactement. Voilà. View through rates et haters. Dropshipping. Les trois mots clés à retenir de ce podcast.
Mais donc Rudy, est-ce que toi, je vais pas retenir la même phrase qu'avant, quoi. On a terminé la partie thématique de ce podcast, mais on a encore une partie finale.
Oui, à l'approche de la fin de cet épisode, on aimerait vous proposer un autre petit jeu orienté vers l'avenir, un petit moment feel good. On aimerait que vous vous adressiez à votre vous-même dans 5 ans et à lui souhaiter ce que vous voulez lui souhaiter.
T'as de nouveau écrit quelque chose?
Alors.
Ah non, j'ai rien écrit.
Là, du coup, il est moins sur la balle. Hein,
alors qu'Emily.
Ouais, moi je tranquille pas.
Alors, quelque chose à se dire dans...
Donc imagine, donc tu parles à PE, 5 ans plus vieux, tu vois, qu'est-ce que tu espères qu'il ait, qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
Ah, mais je lui parle comme s'il était face à moi?
Ouais, il est là, il est face à toi.
Ok, bon, mais j'espère que t'as gardé les pieds sur terre et que tu te remets tout le jour en question, parce que rien n'est acquis dans ce métier, et que t'as été sponsorisé par du saucisson, des mitraillettes et de la bière, et ça, à mon avis, ça ferait une belle réussite. Tu vois, pas besoin de préparer.
Ok. Donc, moi, j'espère que t'as été vacciné. Hein. On est 5 ans plus tard.
Est-ce que tu es toujours là, Émilie?
C'est ça.
Tu parles du Covid-22 ou...
Non, de celui-ci. Je parle bien de la Covid.
Oh.
Ouais, Covid-19. J'aimerais dire quoi? Continue comme tu fais. Lentement mais sûrement.
Les montages.
Ne te laisse pas avoir par la pression de il faut un spectacle. Ta trilogie,
la trilogie
a bien
arrive.
Fonctionné.
J'aime bien parce que c'est un message qu'elle pourrait dire il y a 5 ans aussi.
Et surtout, comme dit PE, continue à te remettre en question et n'oublie pas que l'humour c'est subjectif et qu'on peut pas plaire à tout le monde. Voilà.
C'est beau. Ouais. C'est beau et on voit que c'est de l'impro. Et c'est sur cette belle note qu'on va clôturer cet épisode. Je passe juste encore la parole à Rudy pour le mot de la fin.
Alors le mot de la fin, c'est probablement détesteurs. Mais sinon, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le liker et le partager sur les réseaux et mettre des étoiles ou vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. On est aussi toujours très content d'avoir vos retours sur les réseaux du What the Fun.
Voilà, merci à nos invités. Merci Émilie. Merci PE. C'était chouette de vous revoir. Même pour nous, là, ça fait vraiment plaisir de revoir des gens en physique. Merci Rudy de m'assister pour toutes les solutions techniques. Merci au Cabaret Mademoiselle de nous accueillir ici. Sans vous, on pourrait pas faire ça en présentiel. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de À guichet fermé, le podcast des humoristes sans public. Tchuss.
Salut.
Salut, merci.
Yo.